Bienvenue dans cet épisode du podcast Hola Frenchy. Merci d'être avec moi, je suis ravie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une personnalité française haute en couleur, quelqu'un de haut en couleur au sens figuré, ça veut dire atypique, original, hors norme. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez accéder à la transcription de ce podcast sur Patreon. Elle est joliment présentée dans un document en français seul, en bilingue français-anglais et bilingue français-portugais, avec une liste de vocabulaire, des bonus et des exercices de compréhension à pratiquer. J'en profite pour remercier ceux qui sont déjà inscrits, ceux qui m'apportent leur feedback. N'hésitez pas à me contacter. C'est parti pour Colette la scandaleuse, femme de lettres et libertine. Alors tout d'abord, un homme ou une femme de lettres, c'est quelqu'un d'impliqué dans la littérature. Et un libertin ou une libertine, c'est un ou une adepte de la liberté de penser, quelqu'un qui se fiche, qui se moque et qui s'écarte des normes culturelles, intellectuelles, voire morales de son époque. Dans cet épisode, on va voir le portrait de cette femme exceptionnelle qui a fait couler beaucoup d'encre. Faire couler beaucoup d'encre, ça signifie qu'on a beaucoup écrit, beaucoup parlé d'elle dans les journaux et ailleurs. Quand je dis que Colette est exceptionnelle, c'est parce qu'elle a apporté à l'écriture à une époque où les femmes n'avaient pas forcément leur place dans la littérature et par sa vie privée, libérée, libérale, qui a bouleversé les mœurs de l'époque et qui, je pense, le ferait encore de nos jours. Au début, j'avais pensé faire un podcast sur Colette et Coco Chanel, hein, toutes les deux ensemble, hein, qui sont plutôt scandaleuses, on va dire. Elles ont toutes les deux bousculé les codes pour s'imposer dans la société. Mais bon, franchement, il y a beaucoup à dire sur les deux femmes qui sont en plus très différentes. Donc, je pense qu'elles méritent chacune leur propre podcast. Avant de me lancer sur Colette, je vais mentionner une autre femme de lettres, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir n'a pas eu la vie libertine, voire dépravée qu'on prête à Colette. Dépravée, c'est-à-dire peu morale. Elle n'était pas aussi provocatrice, même si elle aussi était très libérée pour l'époque. Mais ce que j'apprécie chez Simone de Beauvoir, c'est qu'elle luttait vraiment pour la position de la femme dans la société. Elle motivait les femmes à prendre en main leur destin et, dans le domaine artistique, elle revendiquait une égale liberté de création intellectuelle entre les hommes et les femmes. Je vous rappelle qu'il a fallu attendre 1965 en France pour que les femmes aient le droit de travailler sans le consentement de leur mari. Donc Simone de Beauvoir était et est toujours une haute figure du féminisme, ce qui n'est pas le cas de Colette. La relation de Colette avec le féminisme est très ambiguë. C'est clairement une figure d'émancipation féminine, mais elle ne validait pas du tout les combats féministes de son temps. Pour Colette, je me souviens bien de son histoire, car à l'école, on nous avait dit que ses premiers livres avaient été publiés sous le nom de son mari. Ça m'avait un peu choquée à l'époque. Donc elle a vécu sous la coupe de son mari, sous son emprise, donc elle n'était pas indépendante, tout du moins au début de leur relation. Donc allons-y pour Colette, hein, son historique. Colette est née en 1873, donc à la fin du 19e siècle. Vous verrez qu'elle a connu une époque fantastique, hein, et vécu deux guerres mondiales, à l'instar d'une autre personnalité qui n'a rien à voir, mais que j'admire beaucoup, c'est Churchill. Donc Colette est très séduisante, elle a une enfance très heureuse et à 17 ans, elle conquit le cœur d'Henri Gauthier Villars, surnommé Villy, de 15 ans, son aîné, qu'elle finit par épouser. Willy est quelqu'un de renommé, qui a une grande réputation, c'est un critique musical très influent et un auteur prolifique de romans populaires qu'il n'a pour la plupart jamais écrit. Donc il utilisait ce qu'on appelle des prêtes plumes, hein, comme on prête sa plume, on prête son stylo, ou un nègre littéraire, ou encore un nègre tout court, donc des écrivains fantômes, terme qu'on utilisait pour définir quelqu'un qui écrit un roman dans l'ombre pour quelqu'un d'autre. C'est bien sûr une rencontre marquante pour Colette et sa future carrière, car il l'introduit dans le cercle littéraire. Willy est quelqu'un de très malin, il a le nez, c'est-à-dire qu'il sait sentir, il sait repérer ceux qui ont un don pour l'écriture, ce qui est clairement le cas de sa femme, donc il la motive à écrire ses souvenirs d'école, la série Claudine. Claudine à l'école, Claudine à Paris, Claudine en ménage, etc. Mais elle peut le faire à la seule condition qu'il les signe à son nom. Donc pendant plusieurs années, c'est lui qui récolte les fruits des critiques positives du succès des romans de sa femme Colette. Heureusement, Colette a un caractère bien trempé, c'est-à-dire qu'elle a du caractère, qu'elle ne se laisse pas faire, et lassée des infidélités de son mari, donc son mari n'est pas fidèle, il rencontre d'autres femmes, et du fait qu'elle n'est pas reconnue pour son œuvre, pour son travail, elle se sépare de lui en 1906 pour enfin entamer sa propre carrière littéraire et, on va dire, sa vie. Alors, ce n'est pas tout de suite que Colette rencontre le succès, et si elle fait un peu parler d'elle par son talent littéraire, c'est surtout sa personnalité qui fait jaser. Faire jaser, ça signifie qui fait les langues se délier, qui fait les gens parler sur elle. Déjà, c'est l'une des premières femmes à suivre la mode des garçons, donc ces femmes qui se coupaient court les cheveux à l'image des garçons. Je vous rappelle qu'à l'époque, la mode des cheveux, c'était plutôt des cheveux nattés, tressés. Et en plus, elle s'affiche ouvertement avec ses amantes, ses maîtresses, ses partenaires du même sexe. Alors certes, Colette est ambitieuse et motivée, mais à l'époque, ce n'est pas facile pour une femme seule et séparée de gagner sa vie. On est au tout début du XXe siècle. Alors elle entame une carrière au Music Hall et pendant 6 ans, elle présente des pantomimes. Des pantomimes, ce sont des spectacles où les artistes miment des actions, des scènes, ils imitent, ils copient les attitudes d'autres personnes ou animaux. Donc Colette présente des pantomimes orientales dans des tenues très légères. Si vous cherchez des photos d'elle sur Internet, vous trouverez nombre de photos langoureuses à peine cachées derrière un voile sous lequel on aperçoit clairement ses formes. Et d'ailleurs, un spectacle de pantomime qu'elle a joué nue sous une peau de panthère a été interdit par la police. En parallèle de sa carrière sur scène, elle se produit au théâtre, elle poursuit sa carrière littéraire et se crée un réel cercle d'artistes talentueux et de personnes haut placées. Donc progressivement, elle se fait une place dans la société et plus précisément dans le domaine des lettres. Du point de vue relation, Colette est à l'image de sa vie, elle est volage, elle passe d'une personne à une autre, d'un homme à une femme et finit tout de même par épouser un homme politique et journaliste avec lequel elle aura son seul enfant, Colette Renée de Jouvenel, surnommée Belle Gazou, B-E-L-G-A-Z-O-U, qui signifie beau gazouillis, hein, le gazouillis c'est le chant des oiseaux. Son époux, comme Willy, son premier mari, la trompe sans arrêt. Il a des affaires, il a des maîtresses, ce qui la fâche énormément. Alors à plus de 40 ans, elle se venge et devient la maîtresse du fils de son époux, donc de son beau-fils qui a alors 16 ans. Je vous avais prévenu, c'est une scandaleuse, j'ai pas menti. Leur relation durera 5 ans. Colette finit par divorcer et comme elle est rancunière, être rancunier ou rancunière pour une fille, c'est lorsqu'on n'arrive pas à oublier le mal qu'on nous a fait et qu'on garde en soi un sentiment de colère. Donc comme elle est rancunière, elle se venge de lui comme elle l'a fait avec Willy en écrivant un livre qui ne lui fait pas justice. Ce qui est étrange chez Colette, c'est que malgré ce que son comportement peut laisser penser, elle n'était pas féministe. À l'époque, elle avait par exemple en horreur les suffragettes. Les suffragettes sont un mouvement né en Grande-Bretagne de militantes de l'union politique et sociale qui réclamaient le droit de vote pour les femmes. D'ailleurs, en Angleterre, elles l'ont obtenu en 1918, alors qu'en France, il a fallu attendre 1944, 10 ans après la Turquie. Un jour, un critique d'art, Walter Benjamin, lui a demandé « La femme doit-elle participer à la vie politique ?» Et voici ce qu'elle lui a répondu. Je vais la citer littéralement parce que je trouve sa réponse intéressante. « Non, j'ai moi-même parmi mes relations un nombre suffisant de femmes équilibrées, en bonne santé, très cultivées, intelligentes, qui seraient tout aussi capables qu'un homme de siéger dans une commission ou un jury. » Seulement, elles ont toutes, chaque mois, et je vous assure que ce sont des femmes normales, parfaitement constituées, des jours où elles sont irritables, incontrôlées, imprévisibles. Or, les affaires politiques suivent leur cours tout de même pendant ces jours-là, n'est-ce pas? Et il faudra voter et prendre des décisions. Donc, clairement, elle n'est pas féministe pour un sou. Pour un sou, ça veut dire pas du tout. En 1919, la première guerre est terminée, Colette est directrice littéraire du journal Le Matin, sa carrière littéraire est donc à son apogée, elle est au top. Elle se marie une troisième fois en 1925 à 52 ans et partage sa vie entre Paris et la Côte d'Azur. Donc la Côte d'Azur, c'est le sud ensoleillé de la France, la French Riviera, près de l'Italie, avec des noms de villes qui font rêver, comme Cannes, Monaco, Saint-Tropez. Saint-Tropez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'endroit in, up des jet-setters, des célébrités comme Paris Hilton. Donc, elle reste pas mal de temps à Saint-Tropez, où elle en profite pour écrire de nombreux romans. La Deuxième Guerre mondiale éclate, Paris est occupé, elle reste cantonnée dans son appartement pendant toute la durée de la guerre. Être ou rester cantonnée, c'est rester enfermée dans un endroit. Du fait de ses origines juives, son mari est arrêté par la Gestapo, il est transféré dans un camp, mais Colette s'appuie sur ses relations, elle fait jouer ses relations pour le faire libérer. À cette époque, Colette est déjà âgée. Elle souffre d'une arthrite de la hanche qui l'oblige à rester au lit, ce qui n'est pas très dérangeant pour ses talents littéraires. Donc, elle continue à écrire, mais pas essentiellement pour le plaisir, car elle a besoin d'argent. Et en pleine guerre, ce qui paye, ce sont les journaux. Colette est apolitique, c'est-à-dire qu'elle ne s'engage pas politiquement, donc elle se retrouve à écrire pour des journaux collaborationnistes. Collaborationniste, c'est-à-dire en faveur de la collaboration avec les Allemands, ce qui lui vaut bien évidemment des reproches de la part des résistants dans la presse clandestine. En 1945, à la fin de la guerre, à l'unanimité, elle gagne le prix Goncourt, qui est un grand prix littéraire, et elle comprend très vite que la célébrité passe par l'image, donc elle devient l'écrivaine la plus photographiée du XXe siècle. D'ailleurs, si vous allez sur Google et que vous tapez Colette, vous allez trouver de nombreuses photos d'elle, très cool, probablement dénudées ou avec un chat. Colette meurt en 1954 et en raison de sa vie sulfureuse, l'Église catholique lui refuse un enterrement religieux, mais la France décide de l'honorer. C'est la première femme à laquelle la République a accordé des obsèques nationales. Colette est enterrée au Père Lachaise, qui est un cimetière parisien que j'adore et qui compte de nombreuses célébrités comme Jim Morrison, Oscar Wilde, Apollinaire, Chopin, Balzac, Delacroix. C'est un très beau cimetière que j'adorais visiter quand j'habitais à Paris. Alors je sais que ça choque certaines personnes, certains de mes amis, notamment au Brésil, où visiter des cimetières n'est pas une chose courante. Mais toutefois, il en vaut vraiment la peine. C'est quasiment un musée à ciel ouvert avec plein de personnalités qui ont marqué l'histoire. Parmi les œuvres les plus notables de Colette, on notera la série semi-autobiographique des Claudine qui relate la jeunesse de l'auteur. Claudine à Paris, Claudine à l'école, Claudine en ménage, Claudine s'en va. Claudine en ménage, se mettre en ménage, ça signifie commencer à vivre en couple. Donc les deux premiers livres de la série ont été édités, je vous rappelle, sous le nom de son mari Willy. Il y a également Chérie, qui est l'une des œuvres les plus attachantes de Colette. Elle dépeint un certain milieu mondain et le scandale qui entoure la relation d'un jeune homme avec une femme plus âgée. Il y a également la nouvelle Gigi, qui a été beaucoup reprise au théâtre et au cinéma. C'est l'histoire d'une jeune fille qui évolue dans le milieu des demi-mondaines de la Belle Époque. Les demi-mondaines sont des femmes dont le statut oscille, tangue, balance entre la prostituée de luxe et la maîtresse entretenue par de riches parisiens. On ne peut pas clôturer le portrait de Colette sans mentionner sa passion pour les chats. Ils sont présents partout dans ses œuvres, elle leur donne même parfois la parole, comme c'est le cas dans son roman La Chatte, où on assiste à un ménage à trois, donc une relation à trois, entre Sarah, la chatte, et Alain et Camille, un couple. Et dans l'histoire, la femme et l'animal rivalisent, et bien sûr, c'est l'animal qui remporte ce duel. Je pense que sa passion pour les chats vient sûrement de la personnalité même de Colette. C'est une femme qui a toujours été très libre et qui n'a jamais vraiment appartenu à quelqu'un et qui n'en a jamais fait qu'à sa tête, hein. Non, faire qu'à sa tête, ça veut dire faire seulement ce que l'on veut. Et c'est une femme qui a traversé la vie, on peut dire, avec grâce et défi, à l'image d'un félin. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et j'espère que cet épisode sur Colette vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur Patreon pour la transcription ou pour m'offrir un petit café, c'est pas de refus. Et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode.